Bonjour à tous les Auroviliens. Aujourd'hui, je vais vous lire Savitri, livre 10, chant. Les jours rêveurs du réel terrestre de Sri Aurobindo. Mais Savitri répondit au formidable Dieu. Quel est ce calme dont tu te vantes, ô loi, ô mort? Est-ce l'inerte marche au regard hébété de monstrueuses énergies enchaînées dans une inflexible ronde, sans âme et les yeux de pierre avec des rêves mécaniques? Alors vint l'espoir de l'âme, si l'immuable loi est tout. Toujours presse-toi vers le nouveau et l'inconnu. Les millénaires précipités justifient Dieu. Que seraient les âges de la terre si la grise mesure n'était jamais brisée et les gloires ne jaillissaient pas, faisant éclater leurs semences obscures, tandis que la vie lente des hommes bondissait en hâte sur de soudains chemins splendides. Révélés par des paroles divines et des dieux humains, n'impose pas au mental et au cœur sensible la lourde fixité qui lie les choses inanimées. Le règne inconscient est bon pour les créatures animales. Elles sont satisfaites de vivre sous le joug immuable. L'homme se tourne vers une marche plus noble, un chemin maître. Je piétine ta loi avec des pieds vivants, car pour me lever dans la liberté, je suis née. Et si puissante que ma force soit dévoilée, égale compagne des forces éternelles, ou bien que mon âme frustrée s'enfonce dans le sommeil originel, indigne de Dieu. Du temps, je réclame l'éternité de ma volonté et de Dieu ses moments. La mort lui répondit : pourquoi la noble et immortelle volonté s'abaisserait-elle aux menues besognes de la terre transitoire? Sa liberté oubliée le chemin de l'éternel? Ou bien est-ce cela le haut usage de la force et de la pensée? Lutter contre les liens de la mort et du temps et perdre le labeur que pourraient gagner les dieux et se battre et souffrir l'angoisse et les blessures pour saisir les joies futiles que la terre peut garder. Dans sa petite boîte au trésor des choses passagères, enfant, as-tu foulé les dieux sous tes pieds seulement pour gagner quelques miettes de vie terrestre pour celui que tu aimes? Annulant la grande délivrance, retardant le précoce ravissement des cieux auxquels les clémentes divinités avaient appelé son âme. Tes bras sont-ils plus doux que le parvis de Dieu? Elle répondit : droite, je piétine la route, taillé pour moi par la ferme main qui nous a conçu ces chemins. Je cours aux commandes sa douce voix terrible, et je suis conduite par les reines de Dieu. Pourquoi a-t-il tracé le vaste plan de ces mondes prodigieuses où emplit l'infini de son souffle passionné? Pourquoi a-t-il bâti ma forme mortelle et semé en moi ses brillants et fougueux désirs, si ce n'est pour réaliser en moi, pour fleurir, pour aimer, sculptant son image humaine, richement douée de pensées de largeur et de force dorée? Les cieux lointains peuvent attendre notre venue dans leur calme. Aisé pour Dieu était de les bâtir. La terre était sa manière difficile. La terre donnait la gloire du problème et la force et la lutte. Il y a des masques sinistres et des pouvoirs terribles. Là est la grandeur de créer les dieux. L'esprit n'est-il pas immortel et affranchi, toujours délivré des atteintes du temps? Pourquoi est-il descendu dans l'espace des mortels? Il a donné une mission à son haut esprit dans l'homme et écrit un décret caché sur les sommets de la nature. Telle est la liberté, avec l'âme toujours en selle, large dans les limites de la vie, forte dans les nœuds de la matière, bâtissant une grande substance d'action avec les mondes pour faire une fine sagesse avec des fibres grossières éparses. Et tailler l'amour et la beauté dans la guerre et dans la nuit. Telle est la merveilleuse gageure, le jeu divin. Quelle liberté à l'âme qui ne se sent pas libre, à moins d'être dépouillée nue et qui ne peut pas embrasser les liens dont l'amant entoure le corps de sa compagne de jeu, choisissant sa tyrannie écrasée dans son embrasse pour le saisir mieux dans son cœur illimité. Elle accepte le cercle limité de ses bras, s'incline pleine de joie sous les mains maîtresses et rit de ses riches contraintes. Les plus liés, les plus libres. Telle est ma réponse à tes leurs, ô mort. Immuable démenti de la mort a défié le cri de Savitri. Si puissante sois-tu, quel que soit ton nom secret, proféré par quelque conclave caché des dieux, la passion éphémère de ton cœur ne peut pas briser le rempart de fer des choses accomplies, par lesquelles les grands dieux clôturent leur camp dans l'espace. Qui que tu sois, derrière ton masque humain, même si tu es la mère des mondes et accroche ta prétention au royaume du hasard, la loi cosmique est plus grande que ta volonté. Même Dieu lui-même obéit aux lois qu'il a faites. La loi reste et jamais elle ne peut changer. La personne est une bulle sur la mer du temps, avant-coureuse d'une vérité plus grande à venir, ton âme créatrice de cette loi plus libre, se vantant d'une force derrière sur laquelle s'appuie et d'une lumière au-dessus que personne n'a vue, sauf toi. Tu réclames les fruits précoces de la victoire de la vérité, mais qu'est-ce que la vérité? Et qui peut découvrir sa forme parmi les spécieuses images des sens, parmi la foule des devinettes du mental et les noires ambiguïtés d'un monde peuplé des incertitudes de la pensée? Car où est la vérité? Et quand a-t-on entendu ces pas légers parmi la clameur sans fin du marché du temps? Et quelle est sa voix parmi les mille cris qui traversent l'écoute du cerveau et abusent l'âme? Ou bien la vérité n'est-elle rien qu'un haut nom étoilé ou un mot vague et splendide dont la pensée de l'homme se sert pour sanctionner et consacrer le choix de sa nature? Le désir du cœur se parant de la robe de connaissance, l'idée chérie élue parmi les élus, la favorite de la pensée parmi les enfants de la pénombre, qui remplissent à haute voix le terrain du jeu du mental, où peuplent ses dortoirs dans un sommeil de nouveau-né. Tout dépend ici du oui ou du non de Dieu, deux pouvoirs réels mais faux l'un et l'autre. Deux étoiles mariées dans la nuit lunaire du mental, regardant deux horizons opposés. La tête blanche et la queue noire du drac mystique. Drac égale dragon. Le pied léger, le pied boiteux, aile forte et aile brisée, qui soutiennent le corps du monde incertain. Un grand dragon surréel dans les nues. Trop dangereusement ta haute et fière vérité doit vivre, enchevêtrée dans la petitesse mortelle de la matière. Tout dans ce monde est vrai, et pourtant tout est faux. Ces pensées courent comme une éternelle nullité. Ces hauts faits gonflent la somme zéro ronde du temps. Ainsi l'homme est-il à la fois animal et Dieu, une énigme disparate de la fabrication de Dieu, incapable de libérer la forme de divinité au-dedans, un être moins que lui-même, et pourtant quelque chose de plus. L'animal qui aspire, le Dieu frustré, est pourtant ni bête, ni divinité, mais homme lié à l'espèce que le labeur de la terre s'efforce de dépasser, grimpant à l'échelle de Dieu vers des choses plus hautes. Les objets sont des semblances et nul ne connaît leur vérité. Les idées sont des devinettes d'un Dieu ignorant. La vérité n'a pas de pays natal dans le cœur irrationnel de la terre, et pourtant, sans la raison, la vie est un labyrinthe de rêves, sauf que la raison est en équilibre au-dessus d'un abîme noir. Et finalement, se tient une planche de doute. L'éternelle vérité ne vit pas chez les hommes mortels. ou si elle habite dans ton cœur mortel, montre-moi le corps de la vérité vivante ou dessine-moi l'esquisse de sa face, que moi aussi je puisse obéir et l'adorer. Alors, je te rendrai ton Satyavan. Mais ici, il n'y a que des faits et la stricte loi d'acier. La seule vérité que je sache, c'est que Satyavan est mort et que même ta douceur ne peut le récaptiver. Nulle vérité magique ne peut ramener un mort à la vie. Nul pouvoir de la terre ne peut annuler la chose une fois faite. Nulle joie du cœur ne peut survivre à la mort. Nulle félicité persuader le passé de vivre encore. Seule la vie peut consoler le vide muet et remplir de pensées la vanité du temps. Ainsi donc, laisse ton mort, ô Savitri, et vis. La femme a répondu à l'ombre puissante et tandis qu'elle parlait, la mortalité a disparu. Son moi de déesse pouvait se voir dans ses yeux. La lumière est venue dans son visage comme un rêve des cieux. Ô mort, toi aussi es Dieu, et pourtant pas lui, mais seulement sa propre ombre noire sur son chemin. Lorsque, quittant la nuit, il prend le chemin qui monte et traîne avec lui la force collante de l'inconscient. Tu es la tête noire de Dieu inconscient. Tu es le signe impénitent de son ignorance. Tu es l'enfant naturel de ses vastes entrailles ténébreuses, de son immortalité, la sinistre barrière. Tous les contraires sont des aspects de la face de Dieu. Le multiple est l'un innombrable. Le un porte la multitude dans sa poitrine. Il est l'impersonnel, incrustable, solitaire. Il est l'unique personne infinie qui regarde son monde. Le silence porte le grand sceau muet de l'Éternel. Sa lumière inspire le Verbe éternel. Il est le profond calme impérissable de l'immobile. Sa blanche béance sans signe qui nullifie le calme, et pourtant il reste le moi créateur, le Seigneur tout-puissant, et il regarde sa volonté accomplie par les formes des dieux, et le désir qui aiguillonne l'homme à demi inconscient, à demi conscient, et la nuit aveugle qui résiste. Ces vastes extrêmes divins, ces pouvoirs inverses sont le côté droit et le côté gauche du corps de Dieu, l'existence balancée entre deux bras puissants confronte le mental avec les abîmes impénétrés de la pensée. Ainsi, les ténèbres dessous, une insondable lumière au-dessus, réunie dans la lumière, mais tranchée par la séparation mentale, se trouve face à face, opposée à la lumière. inséparables, deux contraires nécessaires pour la grande tâche mondiale, deux pôles dont le courant éveille l'immense force mondiale. Voilà, alors aujourd'hui, je termine Savitri, livre 10, chant 4, le demi-jour rêveur du réel terrestre, Sri Aurobindo, Savitri. Alors, ce sont les livres 8, 9 et 10, traduction de Satprem. Alors, je remercie Sri Aurobindo et Douce Mère pour cette merveilleuse description du demi-jour du réel, rêveur du réel terrestre. Merci Stefano, Ganga, Lakshmi.
Radio.